Une vie, une œuvre, Paul Signac, 1863-1935, Paris. Héloïse et Jules Signac possèdent un commerce de sellerie, 33 rue de Vivienne à Paris, là où naît leur fils Paul. Quand Jules meurt, ce dernier a 16 ans. La vente du commerce procure au jeune homme la possibilité d'abandonner ses études pour se consacrer à ce qui le passionne, la littérature d'avant-garde et l'art. Son œuvre picturale nous conduit rue Caulaincourt, au château de Comblat, au Cap Canaille ou dans un paysage corse. Dans son journal inédit, il écrit, le 22 août 1894, « Il y a quelques années, je m'efforçais aussi de prouver aux autres, par des expériences scientifiques, que ces bleus, ces jaunes, ces verts se trouvaient dans la nature. Maintenant, je me contente de dire, je peins ainsi, parce que c'est la technique qui me semble la plus apte à me donner le résultat le plus harmonieux, le plus lumineux et le plus coloré. » Nejma Bouakra signe, avec Julie Béressy, « Une vie, une œuvre, Paul Signac. »
Le dimanche, une des grandes distractions du père Signac, c'était de faire danser son chat siamois. Et on lançait des boules de papier au chat, et le chat faisait des bonds quelquefois de plus de 2 mètres. C'était d'ailleurs une bête extraordinaire. Après ça, souvent, c'est moi qui ai dansé, avec des voiles et des gaz.
Qu'est-ce que vous nous préparez ? C'est un disque, dont le son est très mauvais, malheureusement.
Il faut commencer par le commencement et chercher les souvenirs les plus loin, blottis au fond de l'enfance.
C'est ma grand-mère. En 1969, quand elle décide de recueillir ses souvenirs au sujet de son père,
je me vois auprès de mon père déjà assez âgé, un peu fort, qui était pour moi comme une sorte de Père Noël. Cette pêche aux souvenirs, je vais essayer de me replonger dans l'atmosphère de cet atelier de Signac. Il a vécu jusqu'à sa mort. C'était un atelier très clair, très propre, tout à fait ciré par terre, chaque meuble sans un grain de poussière, de même que sa palette qui était nettoyée et refaite tous les jours.
Elle a enregistré des bandes et c'est assez émouvant. Elle évoque principalement ici son enfance et son adolescence rue de l'Abbaye, puisque Signac s'est installé au 14 rue de l'Abbaye après la guerre, première guerre, et qu'il est resté là jusqu'à sa mort en 1935.
Elle s'enregistre, elle a quel âge ?
Nous sommes en 69-70, donc elle est née en 13, donc
elle a une cinquantaine d'années.
Elle a une cinquantaine d'années, l'âge qu'avait son père quand elle est née.
Paul Signac, le goût de l'harmonie. L'homme ici en kimono a l'air ravi. Là, il pose, la barbe épaisse, coiffée d'une casquette tenant la barre d'un navire. Il note sur ses carnets en 1891, les sardiniers rentrent sous un grain, mer peu clapoteuse, il y aura des nuages violets et des hommes en surois jaune. Ne le confondez pas avec un pêcheur breton, il est artiste peintre. Sur sa toile, les élytres d'un coléoptère dessinent les lignes d'un tonnier ivre. Un soleil sec ponctue la trame d'une mer prise dans un calme froid. Ailleurs, les coups précipités d'aviron rythment l'air d'une marine. Il est l'homme du pointillisme, avec Seurat, mais il déteste ce mot, vain colibé d'un critique, mot de tapissier, car l'homme travaille à décomposer la couleur, cherche une nouvelle surface sensible dans laquelle l'œil se mire et se détache. Sa famille voulait faire de lui un architecte, mais il préféra dessiner sur les bords de la Seine que dans un atelier des beaux-arts, confie-t-il. Homme intransigeant, intense, idéaliste, il a vécu sa vie en prenant le large, mais fut un ami indéfectible autant qu'un fils prodigue, unique, solidement accroché à sa mère, dont il fut adoré.
Il lui dit « Oui, ma bonne mère, j'ai une amie, une bonne et honnête compagne que je n'ai quittée que pour m'asseoir à ta table. Et c'est elle qui a assuré la tranquillité de ma jeunesse et fait de moi un travailleur paisible, un bon fils. Tu peux t'informer auprès de tous mes amis, ils te diront ce qu'elle est. Demande à Luce, demande au père Pissarro dont elle est cousine. Pendant ces 9 années, pas un nuage n'est venu obscurcir notre bonheur. Et tu dois bien penser qu'avec mon caractère, il a fallu que le sien soit bien excellent. » Signac a mauvais caractère. C'est un colérique. Et je crois que Berthe aussi avait très mauvais caractère. Donc je ne pense pas que son caractère était aussi excellent que Signac le décrit à sa mère. Et ça devait être assez orageux, puisque souvent il l'appelle Madame la Rouge ou Montrouget. Ce qui est une allusion au fait qu'elle devenait rouge de colère. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être sans tempête ces 9 années. Et ensuite, Signac va préparer sa mère à cette rencontre et lui faire une description. Très noire de cheveux, peau brune olivâtre, petite, boulotte, type mi-créole, mi-gitane, les plus beaux yeux du monde, un joli menton, une tête ébouriffée, une tête d'orientale, rien de la frimousse parisienne.
Berthe, vous l'avez sans doute croisée attachant son bas rouge dans une toile peinte en 1883, ou encore de dos refaisant son chignon. Rencontrée dans le sillage de Pissarro, elle sera sa plus fidèle interlocutrice. Pas un jour ne passe sans qu'il ne lui écrive depuis leur rencontre. Elle lui reprochera de céder aux sirènes de la reconnaissance en acceptant la Légion d'honneur. « Ce n'est pas possible, tu trahis nos idéaux de jeunesse ». Signac, encore enfant, a vu s'envoler des ballons au-dessus du siège de Paris en 1871. Il convoyait les télégrammes de son grand-père. La correspondance est une tendance lourde chez les Signac. Et son arrière-petite-fille, Charlotte, déplie les lettres jaunies, noircies, d'une écriture déliée et nerveuse, près de 9000 lettres, celle de Paul Signac.
Une des premières choses que Signac fait quand il reçoit l'argent que son grand-père avait mis de côté pour lui, c'est de courir chez le père Tanguy, où il achète ses couleurs, et d'acheter 2 tableaux de Cézanne. À l'époque, le prix, évidemment, n'a rien à voir avec les prix actuels. Il rentre à la maison avec ses 2 tableaux, et sa mère, Héloïse, qui est une femme avisée, mais néanmoins ouverte d'esprit, lui dit... Écoute, 2 Cézanne, c'est peut-être un peu trop. 1, ça suffira. Ça paraît absurde, mais pour l'époque, je crois qu'au contraire, Héloïse Signac fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Donc Signac va retourner chez le père Tanguy et en rendre 1 des 2.
On peut dire que très jeune, donc Paul Signac a déjà un œil, un regard.
Il a un œil extraordinaire, je sais vraiment, il ne se trompe pas. Alors, il y a des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. Il n'aime pas le symbolisme, il adore l'impressionnisme. Et vraiment, il a un excellent œil et cet excellent œil se révèle très très jeune.
Marina Ferretti.
Et il se montrera toujours très précis dans ses choix. Il a aussi une vision d'historien d'art. Vraiment, il a vraiment conscience de faire partie d'une chaîne. Et cette vision d'historien d'art, il va l'exprimer notamment dans sa collection, notamment quand il choisira de réunir dans sa salle à manger un très beau Valta, le Cross, l'air du soir, et le Matisse peint à Saint-Tropez, enfin juste après Saint-Tropez, commencé à Saint-Tropez, Luxe, calme et volupté. Et en plus, évidemment, ça fait une salle à manger absolument somptueuse, où il réunit vraiment des vrais chefs-d'œuvre.
Paul Signac découvre Monet à l'adolescence et se découvre un goût pour la peinture grâce à Monet.
Monet, c'était révolutionnaire.
Les toiles qu'il découvre, eh ben oui, on les connaît, puisqu'il suffit de consulter le catalogue de l'exposition de 79. Et ce sont les toiles peintes à Varengeville, des marines, des choses très emportées, très libres. C'est déjà un impressionnisme qui évolue par rapport aux toutes premières expositions impressionnistes. Et c'est l'impressionnisme que découvre le tout jeune Signac. Et voilà, avec beaucoup d'enthousiasme, parce que tout ce qu'il fait, il le fera avec beaucoup d'enthousiasme.
Il pense tout jeune, un peu naïvement, que cette palette dansante, impressionniste, tout ce mouvement-là, est simple à créer. Donc il pense qu'il va réussir à peindre assez simplement,
oui,
tout au début.
C'est ce qu'il va dire beaucoup plus tard. Il dira, une des raisons pour lesquelles, non seulement j'étais impressionnée par ces tableaux, mais en plus j'avais le sentiment que c'était beaucoup plus facile à peindre qu'un tableau académique. Et effectivement, alors je ne sais pas s'il le dit vraiment en plaisantant, mais c'est possible. Mais il se débrouille très bien tout seul je dirais, en autodidacte, développer une première partie de son œuvre sur le mode impressionniste. C'est une peinture qui correspond très bien à son tempérament. Signac aime la nature, il a un tempérament impatient, très vif, très énergique. Il aime regarder et traduire le bonheur de regarder la nature. Et c'est vraiment Monet qui le décide.
Monet, oui, je lui ai demandé une entrevue. Monet était encore un inconnu. J'aurais voulu lui demander quelques conseils. Mais où vivait-il? Où habitait-il? Personne ne le savait. C'est en passant à Verteuil que j'ai vu son bateau-atelier.
Vous l'avez abordé?
J'ai pas osé l'aborder. Dans son travail. Je lui ai écrit. Il m'a répondu longtemps après.
Signac est d'abord un autodidacte. Il admire infiniment Monet et Guillaumin. Et Pissarro pour la présence et le parrainage. Pissarro est un des rares peintres à s'occuper des autres jeunes peintres. D'ailleurs, je crois que Pissarro apparaît dans l'œuvre de Zola. Tous ces gens, au fond, sont très importants pour Signac. Il a passionnément aimé les romans de Zola. L'œuvre, bien sûr, a fait l'objet de grands débats dans tous ces milieux. Cet homme a-t-il compris la peinture? Ne l'a-t-il pas comprise? Enfin, la deuxième raison, c'est parce que Zola a défendu Manet, et on sait avec quelle passion. Et Signac, évidemment, a une admiration folle pour Manet. Un de ses bateaux les plus célèbres, puisque Signac a été un grand navigateur, l'un de ses bateaux s'est appelé Olympia. Et l'un de ses premiers bateaux s'est appelé Manet Zola Wagner.
Il écrira à Zola.
Je vous demande, monsieur, la permission de vous signaler une petite erreur sur la théorie des couleurs complémentaires. Gagnère dit « Le ciel est en bleu pour complémentaire de l'orangé. Cet orangé vient s'ajouter au rouge du drapeau, qui, au lieu de devenir violet, tire au contraire sur le jaune. Pour que le drapeau devint violet, il aurait fallu que le ciel soit orangé ou jaune. »
Il écrira d'ailleurs pour lui préciser les idées et la méthode des néo-impressionnistes. Il s'autorise à lui écrire puisque Zola évoque les néo-impressionnistes.
Et Zola lui répond très aimablement qu'il rectifiera dans la prochaine impression, ce qui sera fait. Donc Signac a joué un petit rôle dans l'écriture de ce livre. La troisième raison, bien sûr, pour laquelle Signac se sent très proche de Zola, c'est bien sûr l'affaire Dreyfus. Signac se retrouve dans la petite poignée des tout premiers signataires soutien d'Alfred Dreyfus.
Et de Zola par la même occasion.
Le 11 mai 1892, éclate une bombe au domicile du juge qui a présidé le procès des anarchistes de Clichy. Le 18, deuxième bombe à la caserne Lobo. Le 27, troisième bombe au domicile de l'avocat général qui a requis la peine capitale contre les anarchistes. La police multiplie les arrestations et prend dans ses filets un certain Ravachol. En même temps, elle ouvre un dossier sur Félix Fénéon, dont les propos et les activités font l'objet d'une surveillance spéciale.
Félix Fénéon, oui, c'est un homme surtout insaisissable. Il cultive justement une personnalité à la fois élégante, distante et très réservée.
Isabelle Kahn.
C'est un homme, un personnage double, puisque pendant la majeure partie de sa journée, il est fonctionnaire au ministère de la guerre. Mais tout son esprit est ailleurs. Il est dans la défense des artistes qui sont devenus ses amis et dans la rédaction d'innombrables articles pour des petites revues qu'il soutient et dans lesquelles il écrit avec frénésie.
Dans un premier rapport, on le donne comme anarchiste très convaincu. Le 25 avril, la veille du procès Ravachol, une bombe explose au restaurant Véry. Le 10 juillet, Ravachol est guillotiné. 8 novembre, bombe au commissariat de police de la rue des Bons-Enfants. Un certain Vaillant jette son paquet à la Chambre des députés. Il y a plusieurs blessés. En s'attaquant au Parlement corrompu, l'anarchie éveille bien des sympathies. Ce soir-là, des sympathisants, dont Fénéon, Mallarmé, Verlaine, Zola, Rodin, assistent à un banquet. Et quand on vient annoncer aux convives qu'une bombe a éclaté à la chambre et qu'il y a des blessés, Laurent Taillade s'écrie
« Qu'importe les victimes, si le geste est beau !»
Le 26 décembre 1894, Signac note dans son journal. Fénéon explique que les attentats anarchistes ont fait beaucoup plus pour la propagande que les 20 ans de brochures de Reclus ou de Kropotkine.
Signac publie dans La Révolte, qui se renommera bientôt Les Temps Nouveaux, un article anonyme, impressionniste et révolutionnaire. À l'anarchiste Jean Grave, il manifeste son soutien. « Croyez bien que si mon concours, tant en dessin qu'en finance, peut vous être utile, je suis à votre disposition selon mes modestes ressources. » D'ailleurs, la plupart des collaborateurs des Temps Nouveaux exposent au Salon des Indépendants, où il n'y a ni juge, ni récompense. Les lois scélérates sont votées. La police procède à de nombreuses arrestations, dont celles de militants connus. Le procès des 30 s'ouvre, Fénéon comparaît et tourne en dérision le réquisitoire du ministère public.
On vous a vu causer avec des anarchistes derrière un réverbère. Pouvez-vous me dire, monsieur le président, où ça se trouve derrière un réverbère ?
Tableau qui appartenait jusqu'à sa mort cet été à monsieur Rockefeller et qui maintenant va se retrouver au MoMA. Ce tableau est un tableau magnifique qui est une représentation allégorique de Fénéon, représenté comme un magicien. C'est un homme très soigné, presque un dandy, avec une petite barbiche, un chapeau haute forme. Il tient une fleur, un hibiscus à la main, dans un geste très précieux. Il est presque irréel. Et derrière Fénéon, un kaléidoscope de couleurs, de motifs, de rayures, d'étoiles, de pois, qui sont directement empruntés à un manga que Signac a acheté à la galerie Bing. Ce tableau est un tableau magnifique. Félix Fénéon est un très grand ami, c'est le grand complice pendant toute sa vie de Signac. Il sera le parrain de son enfant et Fénéon est un critique d'art. Fénéon est un homme qui rayonne, qui parraine les artistes, qui est également un grand collectionneur et c'est lui qui emploie pour la première fois le terme néo-impressionnisme. Donc au fond, c'est lui qui nomme les choses et c'est lui qui va, celui qui décrit au fond la naissance de ce mouvement néo-impressionniste.
Monsieur Signac n'a rien de méridional que son nom. C'est un Parisien de 27 à 28 ans, d'une parfaite élégance intellectuelle, insoucieux de toute gloriole, parlant plus volontiers d'étoiles d'Enran, Luce, Seurat, Van Gogh que des siennes. Et dans l'exercice de son art, il peut se définir. Un œil en avance sur l'évolution de la sensibilité visuelle, prêt à s'acclimater dans l'ultraviolet et à resserrer les minima perceptibles. De Concarneau, il rapportera cet automne deux toiles de 25, un soleil couchant et un calme du matin, là fuit, là s'immobilise sans voile, et une de 10, un sardinier côtoie par temps gris de vieux murs. Maître au jeu de la perspective aérienne, il enfle jusqu'à des horizons à jamais distants les nappes firmamentales. Ses œuvres épanouissent un harmonieux et nostalgique rêve dans de la lumière.
Paul Signac, Concarneau, calme du soir, quelle couleur ?
Fénéon tombe amoureux d'une série de toiles marines de Signac, composées dans des couleurs de soleil couchant avec un contraste très fort entre la mer et le rivage, qu'il rend d'une manière extrêmement délicate par la lumière et aussi par ce poudroiement de couleurs qui envahit toute la toile. Ce qui est également très frappant, c'est le rythme des voiles posées d'une manière très très harmonieuse dans la toile et qui décrit pratiquement un mouvement, une cinétique, un ballet de tous ces bateaux rentrant le soir au port et qu'on observe, nous spectateurs, depuis une berge très rousse, hein, rousse et violacée. Et c'est le calme de la journée. Et cette vision poétique des pêcheurs entrant au port avait fasciné complètement Fénéon.
Allons nous saouler de lumière, encore une fois, ça console, écrivait Seurat, l'ami de toujours, l'acolyte, rencontré dès 1886 à la 8e et dernière exposition du groupe impressionniste. Ils ne se quitteront plus. Seurat y montre un dimanche à la Grande Jatte et Signac, avec ses gazomètres et clichés, confirme son adoption de la méthode Seurat. Le mélange ne se fait pas sur la palette, mais dans l'œil.
C'est toujours des couleurs extrêmement claires. Et Il n'utilise pas le noir. En revanche, il utilise pas mal le blanc. Et le blanc qui insiste sur les lumières, avec lequel il mélange, il distribue des petits points blancs pour donner cette impression de lumière au premier plan sur le talus, disons, et puis au second plan pour donner cette impression des petits reflets de lumière à la surface de la scène.
Le tableau blondisse.
Alors la blondeur, est effectivement, on la trouve dans les premières toiles, surtout les premières séries néo-impressionnistes, notamment par exemple ces toiles peintes aux Andelys en 1886, toute première série de paysages néo-impressionnistes, où une lumière effectivement extrêmement délicate et extrêmement blonde donne vraiment le ton du tableau. Par exemple, cette série de Saint-Briac, c'est absolument magnifique. Ici, nous sommes par temps gris, les lignes sont plutôt tombantes. Ici, nous sommes en plein été et la colline prend tout l'espace au premier plan. Ce sont des paysages tout à fait vide de personnages. Ici, nous voyons des traces de pas dans le sable, donc elle apparaît très discrètement, mais c'est surtout le sentiment d'une nature très synthétisée, très sereine, très calme. Et on peut regarder ce genre d'œuvre pendant un temps infini. Si on détaille ne fût-ce qu'une petite partie, on voit la manière de dégrader les couleurs pour passer du sable sec au sable mouillé ici par exemple, avec les couleurs qui se foncent, et puis ensuite la variété des couleurs à la surface de l'eau. Ici vous avez ces petits points jaunes qui expriment l'éclat du soleil à la surface de la mer. Parfois un détail mis en évidence, comme ce très beau chardon pour ce Saint-Briac, la version qui appartient au musée Pushkin à Moscou, et qui donne un aspect un peu étrange, qui donne un accent un peu plus fort à la composition. Enfin, c'est extrêmement poétique à mon avis. La toile s'affirme un petit peu comme une succession de zones de couleurs qui se superposent. Tout ça est très neuf pour nous, paraît évident, mais est extrêmement neuf à l'époque de Signac.
C'est une espèce de fête pour les yeux, la couleur. Alors la jouissance est effectivement la joie de la couleur, et c'est aussi le spasme de l'éclatement. Il y a eu des hommes là qui, en l'espace de 10 ou 15 ans, ont fabriqué des espaces qu'on n'avait jamais vus. Des espaces qui étaient totalement neufs. Des espaces qui pouvaient paraître fous, et qui peuvent encore paraître fous, et qui l'étaient d'une certaine façon, des espaces pratiquement inventés. Ce sont des espaces de peinture. Il n'y a aucune espèce d'espace naturel dans la peinture, il n'y a que des espaces picturaux.
Qu'est-ce que changent Van Gogh et Paul Signac ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors très précisément, on ne sait pas, mais on s'en doute un petit peu. Quand Van Gogh arrive à Paris en 1886, il voit la dernière exposition, la 8e exposition impressionniste, qui se termine avec l'étoile néo-impressionniste. Et à cette époque-là, à ce moment-là, le terme néo-impressionniste n'est même pas signalé, n'est même pas inventé, n'est même pas imprimé. Donc il sera imprimé seulement, nous sommes au printemps 86, et il ne sera imprimé pour la première fois par Félix Fénéon qu'à l'automne. Et donc, pour Van Gogh, il découvre l'impressionnisme. Et l'impressionnisme, c'est aussi le néo-impressionnisme, en fait. Et il est évidemment très intrigué, très intéressé. Il suffit de rappeler ce qu'il peignait avant d'arriver, et les mangeurs de pommes de terre, qui sont très sombres, très empâtés, très croûteux, un travail radicalement différent. Et quand il arrive à Paris, il éclaircit sa palette énormément, il utilise des couleurs de plus en plus claires, et on connaît certaines natures mortes, où manifestement, il essaie, à sa manière à lui, plus libre que celle de Seurat ou de Signac, il essaie véritablement d'explorer les théories des complémentaires. Par exemple, un tableau comme l'italienne Agostina Segatori montre un fond jaune absolu, et puis derrière une sorte d'encadrement de petites, non pas de points, mais de petites barres vertes et rouges qui alternent, et qui sont là aussi une réflexion purement coloriste. Et elle, en italienne qu'elle est, elle a une robe très bariolée, et le premier plan, elle a aussi une sorte de sabrage de traits de peinture vert, rouge, très affirmé. Je pense qu'il n'aurait pas pu faire ça s'il n'avait pas vu ou discuté avec... Il rencontre en tout cas Seurat, qu'il admire beaucoup. Il rencontre également Signac, avec lequel il va peindre sur les bords de Seine à Asnières. Et on imagine, Signac a rappelé les discussions passionnées où Van Gogh était tellement volubile, qu'il tâchait les passants avec son pinceau qu'il brandissait en discutant le coup. Donc on imagine que les conversations devaient être passionnantes, parce qu'ils allaient à pied depuis le boulevard de Clichy jusqu'à Asnières ensemble, et donc ben voilà, ils discutaient le coup pendant tout le trajet, et ça devait être absolument passionnant, et ça parlait de couleurs, forcément, et de peinture et d'avant-garde.
Arles, 1889, Vincent Van Gogh.
Ma tête est depuis encore beaucoup revenue à l'état normal. Provisoirement, je ne demande pas mieux, pourvu que cela dure. Cela dépendra d'un régime très sobre, surtout. Mais par moments, il ne m'est pas tout à fait commode de recommencer à vivre, car il me reste des désespérances intérieures d'assez gros calibre. Ma foi, ces inquiétudes-là, qui peut vivre dans la vie moderne sans en attraper sa part ? La meilleure consolation, sinon le seul remède, est à ce qu'il me semble encore les amitiés profondes, même si celles-là ont le désavantage de nous ancrer dans la vie plus solidement que, dans les jours de grande souffrance, ils puissent nous paraître désirables. Merci encore une fois de votre visite qui m'a tant fait plaisir. En pensée, bonne poignée de main. Vincent.
Signac, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, d'extrêmement ouvert, contrairement à ce qu'on a pu penser, parce qu'il était, on l'a appelé le Saint-Paul du néo-impressionnisme, parce qu'il aimait tellement diffuser ses théories que voilà. Mais il était quand même très ouvert, il regardait beaucoup de choses, il a beaucoup regardé les estampes japonaises notamment, il a beaucoup regardé l'œuvre de Dillon Redon par exemple. Il se rendra à Londres chaque fois qu'il a l'occasion, quand il y a une nouvelle présentation des œuvres de Turner à la Tate Gallery.
Qu'est-ce qui le bouleverse chez Turner ? Qu'est-ce qui le bouleverse ?
D'abord un univers qui ressemble au sien. Turner est un peintre voyageur, un peintre qui a fait beaucoup d'aquarelles à l'occasion de ses voyages, et notamment au bord de la Seine et sur les bords de la Manche. C'est un peintre qui a célébré la lumière, ses œuvres fines sont presque abstraites, parce qu'on voit des effets de fumée sombre qui percent des nuages très très clairs. Enfin, le motif, disons, perd de son importance pour des effets de lumière qui sont le vrai sujet de l'œuvre. Ce n'est plus le port de machin ou le train qui passe.
Ce ne sont plus des tableaux, mais des polychromies, des pierreries. Voilà.
C'est le vocabulaire magnifique de Signac, effectivement. Et très juste, effectivement, c'est des polychromies. Et des polychromies, c'est abstrait, en fait. Il est passionné par l'œuvre de Turner, et par l'œuvre de Delacroix aussi, où il voit l'origine lointaine des théories néo-impressionnistes. Et il est vrai qu'en regardant de près les œuvres de Delacroix, Signac souligne d'ailleurs dans son traité d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme certains détails, la manière par exemple de créer le modelé du pied des femmes du harem dans la mort de Sardanapale, se juxtapose des touches de rouge et de vert, et ça crée ces effets d'ombre ou de modelé. Donc il trouve là une première origine des théories néo-impressionnistes, et il donne à son traité théorique le titre d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme. Donc voilà, il le considère vraiment comme le père de la peinture moderne.
Il semble que devant sa toile, la première préoccupation du peintre doit être de décider les courbes et quelles arabesques vont en découper la surface. Quelle teinte et quel ton pour la couvrir. Il faut adapter les lignes, direction, angle, le clair-obscur, c'est-à-dire les tons et les couleurs, teintes, selon le caractère à faire prévaloir. Pour des lignes descendantes, des teintes froides et foncées, des tons pâles et intenses ajouteront au calme des lignes horizontales. Soumettant la ligne à l'émotion qu'il a ressentie, le peintre fera œuvre de poète.
Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, Isabelle Kahn, nous dire pourquoi ce goût de la couleur ? Qu'est-ce qui change peut-être dans l'usage de ces nouvelles couleurs et aussi de ces nouvelles matières ? À quoi ressemble la palette de ces peintres néo-impressionnistes ?
Alors, c'est une palette qui ressemble beaucoup aussi à un travail de chimiste. Hein. Donc ces artistes ont étudié ce qu'on appelle les teintes complémentaires. Par exemple, le violet sera la teinte complémentaire du jaune. Le vert sera complémentaire avec le rouge et le bleu avec l'orangé. Les artistes vont composer des palettes et surtout directement sur la toile poser des teintes qui, en voisinant, vont se renforcer les unes les autres. Et c'est cette fameuse théorie qui permet, donc en posant un bleu et un orangé, d'obtenir à la fois pour le bleu et pour l'orange une vibration lumineuse beaucoup plus intense.
Cet art qui se veut objectif, il a un idéal, ce serait de trouver une sorte d'harmonie, de clé universelle de l'harmonie, c'est ça, des couleurs.
Oui, il y a une recherche à la fois esthétique et on peut également parler aussi d'un désir d'une nouvelle conception de la vie. Il y a toutes ces notions scientifiques qui émergent et l'art ne va pas être épargné par cette nouvelle manière de traduire la matière puisque les découvertes scientifiques ont permis d'imaginer en effet une matière non pas solide mais constituée d'atomes et constituée aussi de liens entre ces atomes. Donc les artistes pointillistes vont travailler la couleur de manière à créer des liens et de manière à rapprocher des complémentaires de façon à exalter aussi les teintes. Toutes ces recherches, ils vont les étayer par la lecture de textes scientifiques. Surtout Signac, qui est beaucoup plus intellectuel hein, du groupe.
Et surtout, il voit dans ces jeux de couleurs et de reflets assez abstraits, finalement, à la surface de l'eau, il voit une sorte de confirmation de ses théories esthétiques. Par exemple, dans un tableau comme La boue est rouge, il n'était pas ici, mais il va être là. Dans La boue est rouge, qui est un tableau très célèbre, qui se trouve au musée d'Orsay. D'abord, c'est là ici aussi un détail au premier plan, la bouée rouge qui donne l'accent final, je dirais, à la composition, qui donne le titre au tableau. Mais surtout, on sent que l'artiste s'est vraiment plu à décrire les reflets presque plus que la réalité. Et là, on se trouve devant un merveilleux tableau abstrait, en fait, qui est ce jeu où les couleurs papillotent à la surface de l'eau, dans la lumière, et où vraiment, finalement, bon, Signac ne va jamais se priver, je dirais, de la représentation. Il aime trop la nature, les bateaux, voilà. Mais il a une sensibilité qui le porte à certains moments à l'abstraction, d'où aussi ces titres de mouvements musicaux qu'il donne à ses tableaux.
Un peu comme une symphonie de la mer.
Oui. Non seulement Signac, à cette époque-là, donne un numéro d'opus à ses œuvres, à ses tableaux, mais en plus, quand il les expose au Salon des Indépendants, il donne un sous-titre musical. Alors, ici, nous ne les avons pas, mais c'est Allegro, je ne sais plus, je peux... Vous voulez que je cherche? Je vais regarder, parce que c'était assez joli.
Allegro Majesto.
Oui, Majesto, c'est très joli. Alors, Concarneau, Le Sardinier, opus 218, Scherzo. Ici, Concarneau, Calme du matin, opus 219, Larghetto, puis Allegro maestoso, puis Presto finale. et même tout le vocabulaire, je dirais, ton, harmonie, composition, rythme, toutes ces choses-là, intéressent autant le compositeur de musique que celui qui est en train d'élaborer son tableau. Donc, et ce caractère très abstrait, je dirais, de ces marines néo-impressionnistes leur donne aussi quelque chose d'assez musical, assez détaché, je dirais, quand même.
On parle de lignes tristes, de lignes gaies, de couleurs aussi, on recherche des couleurs vives, plus pure, on bannit le sombre, le marron, on parle parfois de couleurs sales.
Voilà, absolument. Mmh. Ah oui. Signac disait que quand deux touches se mélangeaient, ça lui soulevait le cœur. Et donc il était vraiment très précis, il travaillait d'une manière très rigoureuse et sa palette était toujours d'une propreté absolue. Il détestait que les couleurs se mélangent, évidemment c'était contraire à sa théorie. Et ça se poursuivait par exemple, ça se poursuit d'une part avec cette étude des lignes, avec les lignes dynamogéniques, avec l'idée qu'une diagonale qui va de gauche à droite et qui monte vers le haut du tableau,
ascendante, donne
un sentiment de gaieté, de dynamisme, qu'au contraire, une ligne tombante donne un sentiment de tristesse et de repli, que les horizontales donnent un sentiment de sérénité, que les arabesques donnent un sentiment de bonheur. Donc, voilà, toute cette étude, Signac va s'y consacrer de manière très, très sérieuse. Et tout cela donne un aspect très moderne, en fait, à cette peinture.
Quel déchaînement vous avez dû éveiller! Ne vous manquez plus que ça.
Camille Pissarro.
Vous n'avez donc pas conscience que tout le poids du néo vous pèse sur les épaules? On n'attaque pas ce rat parce qu'il est muet. Moi, on me dédaigne, comme l'on fait pour les vieux gâteux. Mais vous, dame, on mord, sachant que vous êtes rageur.
Signac a un grand ami qui se nomme Seurat, et c'est avec lui qu'il invente et qu'il pense le néo-impressionnisme. On parle peut-être de paternité du néo-impressionnisme de la part de Seurat sur le divisionnisme, mais néanmoins, Signac et Seurat vont concevoir ensemble un petit peu la théorie. Voilà. Comment sont-ils liés, l'un et l'autre ?
C'est une amitié très étrange. On peut difficilement imaginer deux personnalités plus opposées. L'un est taiseux, presque maladivement secret. Signac est bouillonnant, Signac est enthousiaste, partageur, et Seurat est ombrageux. Ils avaient un lien très 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 fort, une amitié qui était fondée sur une quotidienneté. Tous les jours, ils étaient voisins, boulevard de Clichy, ils se rendaient des visites absolument quotidiennes, tout en évoquant absolument jamais leur vie privée, ce qui est assez étonnant, puisqu'au moment où Seurat est terrassé et qu'il va mourir, avant de s'effondrer, il lui dit « mon fils, ma femme ». Et là, Signac, interloqué, découvre que Seurat a une femme et un fils, ce dont il n'avait absolument jamais parlé. Et pourtant, leur lien est extrêmement fort. Donc on voit là aussi une grande pudeur de l'un et de l'autre. Bon, chez Seurat, il y a ce côté secret, et chez Signac, il y a ce refus de s'épancher. La mort de Seurat est pour Signac doublement pénible. Il perd son complice, il perd son ami, il perd son mentor. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve tout seul quand même à défendre cette école qu'ils ont, enfin ce mouvement qu'ils ont créé ensemble avec les indépendants en 1884. Bon, Cross est toujours là, mais enfin, Signac au fond le trublion, Signac le casseur d'assiettes, et ben tout d'un coup, il se retrouve quand même tout seul, il peut plus s'appuyer sur Seurat, et c'est un moment de grand désespoir, et c'est ce qui va amener Signac finalement à partir pour le Midi. Et ça va être le début d'une nouvelle aventure.
Je crois que le jardin était très important pour les peintres qui venaient chez Signac au début du siècle. Il y avait tant d'amis qui sont venus ici. Il y a des dessins par des amis, des grands fauves.
Seurat Walden.
C'était évidemment quelqu'un d'extrêmement intense comme homme, je crois. Alors là, il y avait luxe, calme et volupté au-dessus de la table.
Juste là,
oui,
dans le salon.
Juste là, oui. C'est un tableau extrêmement riche et séductif. Là, ce sont des petites esquisses de Signac, mais toutes ces choses restent de chez lui exactement comme c'était. Il y avait des pans qui se baladaient là, et le vin qui était récolté toutes les années. Là, c'était la salle à manger, et là, bien sûr, avec ce fenêtre qui est ouvert sur la mer. Il était fasciné par la mer.
Pourquoi était-il fasciné par la mer ?
Ici, surtout, c'était la lumière qui l'intéressait. Et surtout après un mistral, par exemple. La clarté et la pureté de la lumière est étonnante.
Il arrive en bateau, c'est important. Il est passionné de voile. Il collectionnera tout au long de sa vie un certain nombre de bateaux. Signac a sa casquette de marin rivée sur la tête.
Raphaël Dupuis.
Et ils aperçoivent le petit port de Saint-Tropez, qui est une petite digue avec un tout petit phare, ses maisons emboîtées les unes dans les autres. Alors Paul Signac a rejoint Théo van Rysselberg à Bordeaux. Il embarque sur son propre bateau, donc l'Olympia, et par le canal du Midi, arrive jusque dans la Méditerranée, en passant par Sète, et ensuite découvre par la mer donc le petit village de Saint-Tropez. On a ces pins maritimes qui descendent jusqu'au bord de l'eau, qui ont des formes tortueuses, qui leur fait penser à certaines estampes japonaises, d'Hiroshige ou d'Okusai, ce japonisme qu'ils ont découvert aussi à cette époque-là. Et puis une petite animation sur le port, les premiers touristes qui sont arrivés par le train à partir de 1890, puisque la ligne vient de s'ouvrir, les pêcheurs locaux, les boulistes, toute une vie qui va les émouvoir. Je sais qu'il déclare « Je crois que j'ai découvert là de quoi peindre toute mon existence. »
Depuis hier, je suis installé et je nage dans la joie. À 5 minutes de la vieille ville, perdue dans les sapins et les roses, j'ai découvert un joli petit cabanon meublé. Devant les rives du golfe, les flots bleus venant mourir sur une petite plage et un bon mouillage pour Olympia. Dans le fond, les silhouettes bleues des morts et de l'Estérel. J'ai là de quoi travailler pendant toute mon existence.
Ça change de la Bretagne qu'il trouve un peu pluvieuse et grise, Paul Signac.
La lumière est bien sûr tout à fait différente. Très douce le matin, avec des teintes dorées de ce soleil de la Méditerranée. Et un soleil qui peut devenir très cru, très dur, qui écrase tout en pleine journée. Petit à petit, sans doute à la lumière du midi, ces couleurs vont s'exacerber et devenir encore plus franches, tout en restant divisées. Et vont vraiment, avec les autres artistes de ce mouvement, libérer la couleur et préfigurer le fauvisme qui va naître quelques années plus tard, notamment avec Matisse.
Le critique Théodore Duret disait des impressionnistes, l'impressionniste s'assied au bord d'une rivière. Est-ce que l'on peut dire que les néo-impressionnistes viennent sur le bord de la mer, ici à Saint-Tropez?
Tous les néo-impressionnistes ont été effectivement séduits par la Méditerranée, et d'ailleurs ont adopté pour quelques-uns, notamment Signac quand il arrive à Saint-Tropez, la technique de l'aquarelle. C'est d'ailleurs Camille Pissarro qui avait conseillé cette technique à Signac en lui disant « Je vous recommande l'aquarelle, c'est précieux, très pratique. On peut arriver en quelques minutes à prendre des notes impossibles autrement. La fluidité d'un ciel, certaines transparences, un tas de petits renseignements qu'un lent travail ne peut donner. C'est fugitif, les effets. Ils ont le train qui leur permet de circuler assez facilement d'un village à l'autre. » Et quand ils embarquent quelquefois avec leur vélo, leur boîte de peinture, dans ces petits tortillards, peut-être ils partent pour la journée, mais ils peuvent aussi partir pour 2 ou 3 jours. Ils peuvent pousser jusqu'en Italie, où là, ils découvrent aussi des petits villages qu'ils ont envie de peindre. Tout dépend, voilà, de la lumière et des motifs qu'ils vont trouver et peindre successivement. Il y a une liberté dans l'aquarelle qui convient tout à fait à ces adeptes libertaires, ce rapport à l'harmonie, à une saisie assez rapide des choses de la vie, des petits bonheurs. Et l'aquarelle, c'est une succession de petits bonheurs, comme ça il y a une fluidité. Et d'ailleurs, ça va leur permettre de libérer cette couleur, de s'affranchir de certaines techniques, même si après, certaines de ces aquarelles, comme notamment l'orage que Signac réalise à Saint-Tropez, dont existent des aquarelles préparatoires, devient après une très belle huile.
Petit musée de l'Annonciade. Un jour d'orage, 19e siècle, en 1895, Paul Signac peint l'orage.
Un jour d'orage à Saint-Tropez, cette mer agitée sur laquelle se reflètent déjà des premiers rayons de soleil, une touche plus jaune d'oranger dans l'eau, qui sont le reflet des bâtiments éclairés par ce petit rayon de soleil qui semble poindre après, à la fin de l'orage. Une voile blanche, un petit bateau qui passe avec une voile latine qui accroche très très bien la lumière. Et cette voile vient résonner par rapport à une composition très graphique d'un ensemble de bâtiments qui forment le port les bâtiments sur le port de Saint-Tropez. Des touches divisées, des touches de couleurs différentes collées côte à côte et dans des sens différents, hein, à l'horizontale pour tout ce qui représente la mer, à la verticale pour ce qui représente les bâtiments et d'une façon beaucoup plus tourmentée, beaucoup plus libre pour symboliser le ciel d'orage, le ciel chargé à la fois de gris, de bleu, de tas de nuances soulignées par le soleil qui commence à poindre.
Rien n'est changé, presque.
Nous sommes dans l'atelier. Un lieu saint.
Oui.
Là, au-dessus de nous, on a presque l'impression qu'il y a une sorte d'immense drap, un drap couleur ocre.
Je crois qu'en fait, une fois, ils ont baissé ça. Et c'était une voile de son bateau qu'il a mis comme voile de...
Rideau.
Comme rideau, oui, exactement, oui.
On dirait presque un drapé antique. Hein?
Oui, on dirait, oui, tout à fait. La lumière qui, à la fin de la journée, la lumière à travers là était spécialement parfaite et intéressante. Oui.
Pourquoi?
Le changement de lumière qui vibrait sur l'eau.
Un atelier immense, orienté nord, mais traversant avec également des fenêtres, des portes, un balcon orienté sud. Nous sommes dans l'atelier de Paul Signac qui se nomme La Une, avec un H.
La Une, ben c'est évident quand on regarde par ces deux magnifiques baies vitrées, la vue sur mer, c'est la une du bateau. C'est la une du bateau, il avait une vision sur le large, quand on sait l'importance de la mer pour lui. Et quant à la lumière qui rentrait par la lumière du nord, qui rentrait dans cet atelier, elle était diffuse, ce qui lui permettait effectivement d'avoir un superbe lieu pour travailler, avec une belle lumière tout au long de la journée.
Un parquet assez clair et un petit peu usé par le temps, d'immenses tapis.
Vous avez vu les malles? Il y a les malles de voyage de Paul Signac. Elle porte les initiales PS, mais également les étiquettes avec son adresse à Saint-Tropez. Elles ont dû voyager pas mal, cloutées avec des parties métalliques, aujourd'hui chargées de livres, de revues, de reproductions, de tableaux anciens.
Enquête sur les conditions d'une paix durable. Pierre Kropotkin, Charles Gide, Charles Malato, Jouot, Jacques Guérin, poème d'Émile Verhaeghe, dessin de Maximilien Luce, voilà ce que l'on trouve dans les malles de Paul Signac, une revue anarchiste dans une grande malle de voyage. Tout est resté intact, pratiquement. Quelques palettes, des crayons, des pastels.
Tiroir à dessin.
La carte des principaux ports de France. Des cartes de navigateurs. Des poulies de bateaux, des hélices. Un éventail japonais.
Notre boîte dessous, sur laquelle c'est écrit Stendhal. Et encore des boîtes. Des fusains, une boîte à fusains. Bien rangées dans le coton qui les enveloppe.
J'aime beaucoup cette photo de Signac en samouraï. C'est le Signac tel qu'on l'imagine, potache, un peu rieur, très rieur même. Il a les yeux plissés, il tient son sabre dans une posture guerrière qui lui correspond très bien. Il part à l'assaut. Et cette photo est toujours près de moi parce qu'elle me rappelle que Signac était joueur et qu'il aimait la vie. Et ce que j'aime chez Signac, c'est ce côté vivant et absolument pas professoral. Au fond, Signac déteste les donneurs de leçons. Il n'aime pas qu'on lui explique, il n'aime pas... Et d'ailleurs, quand les jeunes gens viennent le voir à l'atelier, quand il est âgé, il ne donne pas de leçons. Il dit, écoutez, nettoyez votre palette et regardez. C'est quelqu'un qui est dans la spontanéité, qui est dans la vie. Et de l'autre côté, j'ai mis une photo de ma mère, parce que je trouve que ma mère lui ressemble énormément. D'abord ce regard asiatique, ce sourire. Et il y a une phrase que ma mère me répétait enfant, qui était une phrase de lui. Il disait « J'aime pas qu'on me montre ». Et je trouve que ça le définit très bien. Au fond, c'est un homme de terrain. On apprend en faisant, on apprend à peindre en peignant, on apprend à faire du bateau en faisant du bateau, on apprend à faire du vélo en faisant du vélo. Signac, il coupe la parole, je l'imagine bien, un peu brusque, un peu... Bon, allez, Signac n'aime pas s'attarder, c'est quelqu'un qui va vite.
Grande nouvelle. Sur vos conseils, je vais tâter une grande toile. Le joueur de boules devient un personnage épisodique de Au temps d'anarchie. Titre à chercher. Au premier plan, un groupe au repos. Hommes, femmes, enfants. Sous un gros pin, un vieillard conte des histoires à de jeunes mômes. Sur un coteau, la moisson. Les machines fument, travaillent, abattent la besogne. Et autour, des meules. Une farandole de moissonneurs. Au centre, un jeune couple, l'amour libre.
Est-ce qu'on peut observer de près ce tableau?
Oui, bien sûr.
Au temps de l'harmonie.
Alors,
certains disent que l'on peut apercevoir Signac.
Oui, c'est vrai. Signac a mis beaucoup de lui-même dans cette grande composition, qui fait 12 mètres carrés, qu'il a mis plus de 2 années entières à élaborer. Ça a été très, très pénible. C'est un tableau qu'il faut resituer dans son contexte, un contexte personnel et artistique, c'est celui de la mort de Seurat. Seurat était aussi le seul peintre néo-impressionniste qui peignait des grandes toiles qui étaient vraiment, apparaissaient comme un manifeste. Et Seurat décédé, disparu, Signac sent bien que toute la responsabilité du mouvement néo-impressionniste lui incombe. Et bon, il a une propension à diffuser des théories et tout ça, mais il n'a jamais peint d'aussi grande toile, et donc il s'y met, il s'y met, et c'est assez pénible, et il peint ce Autant d'harmonie. C'est un tableau qui est bourré de références et d'allusions esthétiques ou politiques. Au premier plan, nous avons ici deux autoportraits de Signac, deux autoportraits discrets, je dirais. Donc Signac qui cueille un fruit avec un geste qui rappelle un petit peu les gestes d'Ève cueillant le fruit. Voilà, nous sommes au paradis terrestre. cette société harmonieuse, elle est ici, elle est présente devant nous. On y travaille, on y cueille les fruits, on éduque les enfants librement. Le couple, le jeune couple enlacé ici qui se tient là, représente l'amour libre. Disons que ce tableau célèbre l'amour, la paix, l'harmonie sociale, la justice sociale. On a aussi les baigneurs nus hein, qui se baignent. Voilà.
Il y a une rupture dans l'œuvre de Paul Signac, lors de la Première Guerre mondiale. 14-18 est vécu comme un drame pour Paul Signac qui est pacifiste.
Paul Signac est pacifiste, je dirais même, je ne pense pas exagérer en disant c'est pas seulement que Paul Signac est pacifiste, Paul Signac est le pacifisme, au sens où il fait partie des gens qui ont construit, qui ont incarné le pacifisme.
Laissez-moi vous confier, mon cher ami, qu'un
puisque
de mes plus grands chagrins de ces horribles temps a été causé par votre évolution au début de la guerre.
Ses amis en Belgique.
Car c'est vous qui m'aviez formé.
Il est la paix, il est la communion des peuples, il est le...
Et je n'ai pu comprendre que vous admettiez la guerre et que vous ne protestiez pas contre le déchaînement de cette horreur, que vous puissiez faire une différence entre la bonne et la mauvaise guerre. Vous m'avez enseigné que la guerre est mauvaise, toujours atroce, le changement de mon grand ami Verhaeren, Luce refusant de signer l'hommage à Romain Rolland, mon ami Jean Grave admettant la guerre, l'écroulement de tout
c'est
ce à quoi je croyais,
monde. C'est la fin du monde auquel il croit.
Pendant 3 ans, je n'ai pas pu peindre.
L'effondrement total de toutes ses valeurs. On sent dans les lettres une telle détresse, un tel désœuvrement, que je me demande quand même s'il n'y a pas eu un épisode de dépressif, s'il n'y a que n'arrive plus à peindre, plus rien n'a de sens pour lui. Tout ce à quoi il croit n'existe plus.
Tant de petits gars crevant dans la boue, sous la pluie, tant de pères de famille tués, et j'en souffre encore plus de ces pertes humaines, de ces effroyables massacres qui vont nous laisser sans vie et sans force. Jamais je ne pourrai me remettre, je le crains, de l'épouvantable détresse où, malgré mes efforts, je sombre. Je ne serai pas le seul à souffrir telle déchéance. Combien d'artistes n'ont pas résisté au désastre de 1870 ?
Pour lui, c'est un écroulement. C'est un écroulement intellectuel, c'est un écroulement moral.
Elles sont bien tristes, les nouvelles
pendant
qui viennent
d'ailleurs.
Pendant la
guerre, tout s'écroule et les jeunes peintres partent...
Hier, la mort de Peggy.
...sont mobilisés.
Aujourd'hui, celle d'Albéric Magnard, musicien, ami de Mauss.
Il
fusillé pour avoir défendu sa maison.
Salon des indépendants et dit qu'il est hors de question de reprendre ses expositions tant que les jeunes peintres sont sur le front et qu'ils ne peuvent pas y participer. Donc voilà, la vie artistique parisienne est assez bloquée.
C'est un acte politique.
C'est un acte de solidarité, je dirais, avec les jeunes combattants. Il reprendra les pinceaux de manière plus assidue, mais ça restera quand même beaucoup plus moins productif, disons, en tout cas en ce qui concerne la peinture à l'huile après-guerre. Il privilégie aussi l'aquarelle et il a développé vraiment avec beaucoup de bonheur. Et c'est une technique où il n'acceptera jamais d'utiliser le point. Il va travailler l'aquarelle beaucoup plus librement et il retrouve, je dirais, sa veine impressionniste quand il pratique l'aquarelle parce que d'une part, il travaille sur le motif et avec une rapidité d'exécution qui est beaucoup plus proche de son tempérament. Et donc, Signac, à la fin de sa vie, fait une sorte d'inventaire des ports de France, ce qui correspond à tout son goût du voyage, bien sûr, et il peint, mais là, il ne sait pas. Et je dirais, heureusement pour lui, il disparaît avant la Seconde Guerre mondiale. Il peint ces ports qui vont, pour beaucoup d'entre eux, être bombardés et disparaître complètement. Et aussi ces bateaux, qui sont les derniers beaux vieux gréements et qui, eux aussi, vont disparaître. Il ne le sait pas, mais il est en train de faire un inventaire d'un univers qui disparaît.
Paul Signac, Le goût de l'harmonie. Un documentaire de Nejma Bouakra et Julie Beressi.
Merci à Charlotte Hellman, Marina Ferretti, Isabelle Kahn, Sarah Walden, Raphaël Dupuis.
Merci à l'Ermitage, escale néo-impressionniste, rue Paul Signac. Au Tigre et ses amis. Lecture Arnaud Churin et Thierry Ancis.
Prise de son Marc Garvenès, Éric Boisset. Mixage Pascal Bénard. Attaché d'émission Claire Poinsignon.
Une vie, une œuvre, coordination Irène Omelianenko.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, ce sera le début du week-end spécial « Il y a 100 ans, la révolution russe » et « Une vie, une œuvre » sera consacrée à la fille de Marina Tsvetaeva, Ariadna Efron.